La conférence que nous vous proposons aujourd'hui est une conférence à deux voies, langage et construction de savoir dans les disciplines scolaires. Elle s'inscrit dans le prolongement de celle de Sylvie Plane, que vous avez peut-être vu et entendu l'année dernière. Dans cette conférence, Sylvie présente un point de vue généraliste englobant sur le langage, dont elle embrasse l'aspect multidimensionnel et souligne son intérêt social. Quant à nous, nous nous intéressons spécifiquement aux interactions cognitivo-langagières, ce qu'elle appelle les interactions dimensions cognitivo-langagières. C'est pour nous les interactions didactiques. En effet, nous appartenons à un laboratoire de didactique des disciplines, le Lab 3D. C'est cette dimension-là que nous allons développer. Nous nous focaliserons donc sur le savoir parler dans chacune des disciplines et nous étudierons plus spécialement ce qui se passe dans, par et avec le langage au moment des apprentissages. Notre présentation s'organisera de la façon suivante. Nous interrogerons d'abord le positionnement énonciatif des élèves. Alors, nous reviendrons sur ce que nous appelons positionnement énonciatif, hein, dans une même discipline et d'une discipline à l'autre. Ce qui nous amènera à interroger, quand je parlais d'évidence, il y a dans le titre de notre conférence le mot évidence, parce qu'effectivement, le langage et le savoir sont... Tout le monde sait de quoi on parle quand on parle de langage et de savoir. En fait, ce sont des évidences que nous interrogerons et que nous essaierons de déplacer. Et puis, travailler sur les apprentissages, puisque nous travaillons sur les apprentissages, nous serons amenés à examiner le rôle de l'oral et de ses interactions avec l'écrit dans la construction des savoirs.
Alors, l'école est un lieu de rupture et en même temps d'imbrication de la maternelle à l'université. Un lieu de rupture et d'imbrication de monde des croyances, opinions par rapport au monde des savoirs. Un lieu de rupture et d'imbrication du monde de l'oral et du monde de l'écrit. Il s'agit de faire entrer les élèves dans des cultures qui ont des pratiques spécifiques et qui gèrent des discours spécifiques. Et donc, il s'agit de provoquer la transformation des discours premiers avec lesquels ils rentrent à l'école, quel que soit le niveau, pour les secondariser, les transformer. Il s'agit, en effet, pour l'école, au sens large, jusqu'à l'université, jusque dans les lycées professionnels, le monde professionnel, de construire un rapport au langage que l'on a dit plastique, flexible, un langage qui tient compte des contextes dans lesquels il s'agit de parler, des finalités de l'interaction et des usages disciplinaires, professionnels, des différents contextes dans lesquels on évolue. Alors, par ailleurs, en ce qui concerne l'oral, l'école, avec une majuscule, hein, vise plusieurs types de transformations. Alors, au cours de l'école primaire, à l'école maternelle, on vise à transformer le langage quotidien, le langage de la famille, avec des usages restreints, le transformer pour qu'il devienne un langage scolaire, dont les significations sont partagées par une communauté plus élargie que la famille, et donc un langage plus construit, élaboré. L'arrivée à l'école élémentaire va conduire une nouvelle transformation du langage. Il va s'agir d'aller vers un oral scriptural qui commence déjà à prendre en compte les disciplines dans lesquelles on est appelé à parler. On a parlé d'un début de protodisciplinarisation. Le collège, lui, avec des cours bien identifiés, des cours disciplinaires, va amener une spécialisation plus importante du langage oral, des usages oraux et écrits, hein, pour s'ancrer davantage dans les disciplines. Quant au lycée, à l'université et au monde professionnel, il spécialise les usages langagiers des élèves. Donc, on le voit, il s'agit tout au long de ces études et au-delà d'apprendre à faire des choses avec les mots dans des cultures, comme dirait Brunner, et donc à l'école, en chaque discipline. Alors, apprendre à faire des choses avec des mots, Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Comment le décliner davantage? Alors, déjà, un point que nous partageons complètement, c'est qu'on devrait continuer à apprendre à parler longtemps, tout au long du cursus scolaire et professionnel. On n'a jamais fini d'apprendre à parler, mais les enfants continuent à apprendre au moins jusqu'à 15 ou 16 ans. Alors, apprendre des genres de discours multiples dans des contextes variés, comme je l'ai dit, que ce soit les contextes disciplinaires professionnels. Alors, apprendre le langage, c'est tant en production qu'en compréhension, c'est bien le recto et le verso d'une même activité. Et il faut être conscient, en tant qu'enseignant, en tant que formateur, que c'est une aventure à haut risque que de prendre la parole à l'école. Il s'agit non pas de parler comme ça en l'air, mais de prendre en charge un discours, de le rendre public dans des disciplines données, donc être en mesure d'organiser son discours en fonction des attentes de la discipline. Il s'agit à l'école, puisqu'on y apprend, d'articuler prioritairement ces modes de parler à l'activité réflexive, c'est-à-dire essayer d'organiser le rapport entre concepts, manière de le rendre disible. Et par ailleurs, à l'école, le langage est souvent imbrique souvent oral écrit parce qu'il s'agit de parler à partir de notes, de commenter des supports écrits qui se présentent avec différents systèmes sémiotiques, que ce soit du langage verbal, mais des graphiques, ainsi de suite. Donc, il s'agit de mobiliser des usages spécifiques du langage pour mettre à distance les objets du monde ordinaire, les connaissances construites antérieurement et les façons d'en parler pour rentrer dans des modalités beaucoup plus spécifiques. L'école construit des discours sur les objets et les savoir-faire. Elle mobilise un langage qui intellectualise les rapports au monde.
Alors, nous allons commencer à regarder un petit peu ce que les élèves font avec le langage. On va commencer par une discipline, dans une même discipline. On va essayer de voir ce qu'on appelle les pratiques déjà là des élèves. Nous vous présentons là ce qu'on appelle des représentations initiales. Certains d'entre vous savent de quoi nous parlons quand on parle de représentation initiale en sciences. Ça se passe en cours moyen deuxième année. Le module dans lequel les élèves travaillent, c'est le module des échanges passe-inter. Vous me direz, ce n'est pas au programme du cours moyen de deuxième année, mais ce n'est pas très important parce que c'est là que vont les élèves, spontanément. Bon, ils n'ont pas les savoirs scientifiques pour aller plus loin, mais c'est vers cela qu'ils se dirigent. Parce que la question fondamentale, c'est comment, alors pour le dire comme eux, comment le bébé est nourri dans le ventre de sa maman. C'est ça la question. Donc, représentation initiale. Nous avons relevé trois élèves qui représentent un petit peu les positions, les façons de parler les plus usuelles dans la classe. Pour Delphine, on voit bien que pour elle, le savoir scientifique, c'est une succession d'informations. Elle aligne, elle énumère tout ce qu'elle peut savoir, elle recense tout ce qu'elle peut savoir sur le bébé et la grossesse de la maman, on va dire. Pour aboutir à une question fondamentale sur le plan scientifique, le bébé peut-il ouvrir ses yeux dans le liquide transparent? Ouais. Alors, elle a des informations, le liquide, elle sait qu'il y a du liquide, mais ce qui l'intéresse, c'est évidemment le bébé. Pour Thibault, on voit bien qu'il se positionne tout totalement différemment. Il a lui aussi quelques informations, mais pas beaucoup. Mais surtout, ce qui caractérise son intervention, c'est le paradoxe. Ce que je sais, il ne respire pas. La question, comment il respire? C'est-à-dire qu'on voit bien que pour cet élève, ce qui importe, c'est le paradoxe, c'est comment argumenter quelque chose qui lui paraît invraisemblable. Et là, on voit bien qu'il est dans une logique totalement différente. Il s'agit de séparer quelques informations qui l'intéressent et les mettre en tension. Troisième exemple, Romain, c'est un exemple encore différent, c'est celui de l'élève pour qui l'activité scientifique ne se différencie pas de la conversation de type quotidien. Comment ça va, pas mal, en général, comment ça va, pas mal, et toi, hein. Il est vraiment dans un discours conversationnel. Alors, la diversité de ces discours pose la question de l'interprétation par les élèves et souvent par les familles, parce que c'est trois types de positions. On les retrouve à l'école, mais on les retrouve dans la société, de l'activité faire des sciences. Et ça se matérialise, ce point de vue, par la mise en œuvre d'usages langagiers hétérogènes, des positionnements énonciatifs différents.
Alors, ce que nous venons de voir en science, en cours moyen 2, on peut le retrouver de la même manière en grammaire, dans un autre cours moyen 2, une classe qui travaille sur l'attribut du sujet et qui est confrontée à une liste de phrases, toutes construites avec un verbe « être », mais dont certaines ont effectivement un attribut du sujet et d'autres non. Et la consigne donnée aux élèves va être de mettre ensemble les phrases qui se ressemblent sur le plan grammatical. Alors, par rapport à cette consigne, quelle interprétation les élèves ont-ils de faire un classement grammatical? Eh bien, la maîtresse, avant d'envoyer les enfants par groupe essayer de classer ces phrases, ouvre un espace où les enfants peuvent dire déjà selon quels critères ils regrouperaient ces phrases. Donc, ce sont les premières représentations, si vous voulez, de ce classement grammatical des phrases à verbe être. Alors, comme on le voit, là aussi, les enfants, enfin les élèves, vont interpréter l'activité classée sur le plan grammatical de diverses façons. Pour les uns, ça va être d'écrire la phrase, comme pour l'élève de l'échange 8. Il se focalise sur la forme et la nature des mots et donc rentre dans une description syntaxique de la phrase. Pour d'autres élèves, comme dans les échanges 15, 16, 17, il ne s'agit pas de décrire la phrase, mais de s'intéresser au point de vue de celui qui a pu écrire cette phrase. Donc là, on est dans la comparaison, comme si on était sous la pierre, comme s'ils étaient dans le tableau, et on produit un discours de type analogie, comparaison. Si on regarde l'échange 19, en revanche, l'élève se focalise sur l'énonciateur. Qui est-ce qui parle? C'est le château qui parle. Donc, on voit que l'interprétation bouge encore et on a là une description sémantique, l'identification de l'énonciateur. Dans l'échange suivant, le 23, l'élève se focalise sur le thème. Donc, on a encore une autre représentation de ce que c'est que faire de la grammaire. Enfin, dans l'échange 25, l'élève se focalise sur le degré de vraisemblance, construisant un discours du jugement. On voit donc bien, comme en science, que les élèves sont confrontés à des interprètes, enfin, interprètent de manière diverse ce que c'est que classer des phrases sur le plan grammatical et sont appelés par là même à produire des discours divers qui peuvent être de l'ordre de la description, du jugement, de la description sémantique, syntaxique, ainsi de suite. Donc, on le voit, quelles que soient les disciplines, les élèves jusqu'aux étudiants ont du mal à cerner les attentes disciplinaires, tant sur le plan de l'activité que du langage à mobiliser pour effectuer cette activité. Il faut savoir que la conscience disciplinaire est en cours de construction à l'école primaire, qu'elle n'est pas totalement construite à la fin de l'école primaire, et que le collège va fortement participer à cette construction disciplinaire. Mais en attendant, dans chaque discipline, et quels que soient les niveaux, jusqu'à l'université, les étudiants, les apprenants, les élèves ont des difficultés de positionnement énonciatif, et l'école, notamment à travers le travail du langage, a pour mission de permettre aux élèves de travailler ces positionnements énonciatifs pour arriver à construire celui attendu en chaque discipline.
Alors, on vient de dire que les élèves avaient des difficultés dans une même discipline pour adopter le positionnement énonciatif pertinent, mais si ce travail s'avère laborieux en chaque discipline, il est rendu encore plus compliqué par la succession des disciplines d'heure en heure, dans le meilleur des cas. Il faut que les élèves adoptent des points de vue successifs de chaque discipline, d'une heure à l'autre, quelquefois à l'école primaire, de la demi-heure à l'autre. L'exemple que nous vous proposons est un exemple qui permet de voir la difficulté qui leur est proposée. Par exemple, en littérature, donc deux exemples, un en littérature et un en sciences, pas dans la même classe, mais on peut imaginer que c'est possible dans la même classe. Dans le premier exemple, l'exemple en littérature, l'enseignante demande aux élèves d'interpréter la phrase suivante. On aurait entendu une araignée tricoter un pyjama de soie. Et la grosse difficulté éprouvée par les élèves, c'est que bon, ça n'existe pas. Et ils répètent tout le temps « ça n'existe pas », ils n'arrivent pas à imaginer ce qui se passerait si ça existait. Et l'enseignante insiste beaucoup, et elle est « mais si ça existait ?» Et si Et la résolution du problème, si on peut dire, en 389, est une résolution peu satisfaisante dans la mesure où, pour comprendre cette phrase qui relève de l'imaginaire, il faut que l'élève la réfère à un monde quotidien, et donc, du coup, on n'est pas entré dans l'imaginaire, on est à nouveau dans du quotidien. Alors que si on compare avec l'exemple en science, qui est toujours l'exemple du développement du fœtus et des échanges placentaires, il a bien été dit aux élèves que les sangs ne se touchent pas. Certes, c'est... La nourriture, on va dire, entre guillemets, hein, on va mettre entre guillemets, la nourriture, ce qui nourrit le bébé, ce qui nourrit le fœtus, vient de la mère et ça passe par le sang. Ça, jusque-là, ils ont compris. Le problème, c'est que ça passe par le sang, mais les sangs ne se touchent pas. Donc, problème pour les élèves, bah oui, mais et si les sangs se touchaient? Et l'enseignante s'obstine à répondre, mais il ne se touche pas, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Et là, on voit bien que, dans cet exemple, les hypothèses qui relèvent de l'imaginaire ne peuvent pas être prises en compte, alors qu'elles étaient survalorisées en littérature, là, elles ne peuvent plus être prises en compte parce qu'elles sont contredites par les faits. L'araignée qui tricote un pyjama de soie, c'est peut-être contredit par les faits, mais par contre, ce qui n'est pas contredit, c'est qu'on peut faire très peu de bruit en tricotant. Donc, vous voyez, c'est très, très, très compliqué pour les élèves, d'une même discipline à l'autre, une même pratique, et où n'est pas acceptable, et où n'est pas légitime.
Alors, cela pose la question, notamment quand on propose du travail interdisciplinaire, qui est fort intéressant, qui fait partie des usages scolaires, qui est attendu de l'institution, mais qui pose de vraies difficultés pour les élèves pour savoir comment se positionner. Alors, ça suppose que les maîtres aient la maîtrise de ces variations langagières d'une discipline à l'autre, et donc qu'ils soient formés, dans le cadre de la formation continue, à avoir conscience et à connaître les spécificités et les variations entre disciplines. Alors, pour montrer la difficulté justement dans le travail interdisciplinaire, nous vous proposons cet exemple recueilli là encore dans une classe de cours moyen 2, où les élèves ont au travail sur la guerre de 14-18. De manière classique, l'enseignant a fait lire un roman historique, L'or et la boue, qui évoque la guerre de 1914-1918, qui met en scène des héros, notamment Casimir. Et dans le cadre de l'histoire, les élèves lisent une double page documentaire qui évoque les difficultés de l'hygiène et de la prise en charge des blessés dans les tranchées. Et le maître, à la fin de la séquence d'histoire, demande aux élèves d'essayer de rédiger une page documentaire qui rendrait compte du système médical pendant la guerre 14-18, au front, à l'arrière des tranchées. Donc, les élèves sont organisés en groupe, produisent des propositions que dont ils vont rendre compte, qui vont être publiées dans la classe, et donc les élèves viennent lire ce qu'ils ont écrit. Alors, on le voit, quand on regarde les différentes formulations proposées, si le groupe Kevin et Jordan effectivement s'ancre dans un discours qui est acceptable en histoire, on voit bien que les deux autres groupes, Sedema et Myriam et Manon, Estelle, Dylan, ont beaucoup plus de difficultés à construire un discours qui s'ancre dans les discours de l'histoire attendue dans la discipline histoire. Alors, effectivement, dans ces deux derniers groupes, les enfants mélangent des usages du langage liés au récit et des usages du langage liés à un discours qui se veut un discours de l'histoire, ou du moins des savoirs en histoire. Alors, ça pose la question des finalités différentes de l'histoire et de la littérature et des usages de ce qui légitime le discours en littérature et en histoire. Si l'histoire s'intéresse ce n'est pas à la vie d'un individu précis que s'intéresse l'histoire, c'est bien plutôt à celle d'un ensemble d'individus, des entités, leur rôle, voilà. Alors qu'en littérature, par contre, on va s'intéresser à un personnage, ses pensées, son évolution, ses intentions pour la valeur symbolique qu'il représente à travers le texte et les moyens qu'il mobilise. Donc on voit bien la difficulté pour les élèves, combien le panachage des formulations manifeste, signale des errements dans le positionnement énonciatif, dans le point de vue à adopter pour produire le discours.
C'est-à-dire qu'ils ont du mal à différencier c'est toujours la même question, ce qui relève du réel, ce qui relève de la fiction.
Voilà, alors, on le voit, les choix langagiers signalent l'ancrage des savoirs, les savoirs qui sont des constructions historiques et culturelles, qui relèvent de modes d'agir, parler, penser, qui constituent des cadres d'intelligibilité du monde en chaque discipline. Et donc, les choix langagiers ancrent les savoirs dans des mondes particuliers, ce que Minguenot appelle des communautés discursives, et les disciplines constituent des communautés discursives avec des pratiques spécifiques. Or, à l'école, il y a aussi ancrage, bien évidemment, mais ce que l'on observe, c'est que les choix langagiers mélangent des connaissances hétérogènes, qui relèvent de modes d'agir, parler, penser hétérogènes, des connaissances du monde quotidien, des connaissances de l'école des années précédentes, donc avec des modes de construction de ces connaissances différents. Et donc, ces différentes connaissances s'ancrent dans des modes hétérogènes qui frottent, qui sont en concurrence. Et il s'agit pour les élèves d'arriver à rentrer dans les mondes des disciplines, à s'inscrire dans ces mondes. Donc, on le voit. Si les connaissances textuelles et linguistiques sont absolument nécessaires, elles ne sont cependant pas suffisantes. Il est absolument indispensable que les élèves puissent s'acculturer aux univers culturels, disciplinaires, professionnels, qui sont éloignés du monde ordinaire et dont la connaissance est indispensable pour construire un discours pertinent, cohérent, et acceptable dans la discipline. Le locuteur, donc, se construit à l'école, apprend à devenir à la fois un sujet cognitif, qui effectivement s'approprie des savoirs, mais un sujet social qui s'approprie dans le même temps les modes de parler de la discipline.
Alors, ces constats nous ont amenés à revenir rapidement sur nos conceptions et sur les conceptions de tout le monde, du savoir et du langage. On parlait tout à l'heure de dépasser des évidences, dépasser des clichés. Alors, en ce qui concerne la nature des savoirs, pour beaucoup de personnes et bien sûr des enfants, le savoir est préexistant à l'activité humaine. Le savoir existe, il est de soi. Et en fait, il suffit pour l'apprendre de s'informer. Si vous vous rappelez ce que disait Romain tout à fait au début, si on allait lire, je crois qu'on n'a pas noté ça. Pour savoir comment il faut faire, on n'a qu'à aller le lire. C'est-à-dire, on va aller chercher l'information, elle est ailleurs, mais on ne va pas tellement faire un effort de construction. Donc, pour les enfants, le savoir, il est en dehors de l'activité humaine, alors qu'on sait que le savoir, on sait avec l'histoire sociale et la philosophie des sciences, que les savoirs sont des constructions historiques et culturelles qui sont les fruits d'une activité humaine spécifique au sein d'une communauté. Donc, on vous donnera en bibliographie, vous verrez en bibliographie des références sur cette question-là. Et donc, comment se fait l'objectivation et l'institutionnalisation des savoirs et des pratiques? Elle se fait par le langage.
Entre autres choses.
Pour ce qui nous importe actuellement, par le langage. Les savoirs scolaires, alors maintenant, si on regarde les savoirs scolaires, eh bien, ils sont comme les savoirs savants. Ce sont des constructions, ils reviennent à reconstruire des constructions historiques et culturelles qui sont fruits d'activités humaines. Alors, nous nous appuyons non seulement sur les philosophes et les historiens de l'histoire des sciences pour travailler sur les questions des savoirs. Mais nous nous appuyons aussi sur Vygotsky, sur la théorie historique et culturelle qui est à la base de notre laboratoire. Pour Vygotsky, les savoirs ou les concepts peuvent être distingués en deux, concepts spontanés et concepts scientifiques. Et il fait la différence à partir de trois types de critères, qui sont le mode de signification, le degré de conscientisation et le rapport avec le langage. Et il différencie les deux concepts en disant que les concepts spontanés sont liés à l'expérience singulière, liés à l'expérience immédiate, alors que les concepts scientifiques sont insérés dans des réseaux conceptuels. Les concepts spontanés sont sans réflexion, sont spontanés, sont incorporés, alors que les concepts scientifiques relèvent d'un travail conscient et d'un travail volontaire. Les concepts spontanés sont étroitement liés, imbriqués à la forme langagière première dans laquelle ils ont été dits et entendus, alors que les concepts scientifiques sont reformulés, thématisés de façon diverse, pris sous des angles différents. Nous pensons que apprendre, c'est transformer les concepts spontanés en concepts scientifiques, aller de concepts spontanés vers des concepts plus scientifiques. Selon nous, on ne passe pas d'un concept spontané à un concept scientifique, mais de concepts spontanés, on va vers des concepts plus scientifiques. C'est plutôt de l'ordre d'une évolution. Alors, maintenant, si nous regardons un peu la nature des savoirs scolaires, les savoirs scolaires sont aussi des savoirs savants à la mesure de l'école. L'activité, certes, de reconstruction est différente, mais on constate la même conscientisation. C'est-à-dire construire des savoirs à l'école suppose un certain degré de généralisation, une mise en réseau, des désignations conscientes, de multiples reformulations. Ce qui suppose, et on voit bien la conséquence pour les classes, pour la classe, que l'apprentissage relève d'un travail langagier, oral, bien sûr écrit, puisque on vous a dit que oral et écrit étaient quand même étroitement liés dans le cadre de l'apprentissage, c'est-à-dire un travail de récapitulation, de reformulation, de compte rendu, de commentaires, etc., etc. Et cela suppose aussi qu'il faut donner aux élèves un espace pour qu'ils cessent à.
Bien. Alors, comme on a été amené à réinterroger ce qu'étaient les savoirs, nous vous invitons maintenant à revenir sur le langage. Qu'est-ce que le langage? Quelles sont les conceptions du langage que nous avons? Et il nous semble important, effectivement, de rendre les enseignants, les formateurs conscients de leur conception du langage, des arrière-plans conceptuel lié au langage. Alors, des clichés à dépasser, nous continuons sur cette lancée, le langage n'est pas la langue. Si la langue est bien un ensemble d'outils en dépôt dans la culture et à disposition de tous, le langage, lui, renvoie aux usages que chaque individu fait de cette langue en dépôt dans la culture et renvoie aussi aux usages que des groupes humains, les disciplines, par exemple, des sphères d'activité ont stabilisés dans la culture. Donc, ça, c'est loin d'être un code transparent, un code qui permettrait de matérialiser des idées toutes faites dans la tête, qui suffirait de verbaliser ou d'écrire, hein, selon la forme du langage, qu'il soit oral ou écrit. Non, le langage, dans les conceptions actuelles, est considéré comme une activité sémiotique, une activité qui permet de construire et de négocier de la signification dans le cadre des interactions. Le langage, activité sémiotique, parce qu'il permet de construire des mondes, le monde journalistique, le monde médical, le monde de l'histoire, des mathématiciens. Et dans ces mondes-là, on construit des objets de discours, des objets discursifs qu'on schématise, pour reprendre Grise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on le verra plus tard. Un escargot existe bien dans le monde, c'est bien un animal qui est vivant dans le monde. Mais quand on s'intéresse à l'escargot, et quand on parle de l'escargot dans un discours, on va pouvoir s'intéresser à l'escargot du point de vue des sciences ou d'un point de vue littéraire, et donc ce n'est pas le même objet qu'on va construire dans le langage. On va prélever quelques traits pertinents pour l'activité et on va laisser de côté nombre de caractéristiques de l'escargot qui ne nous intéresseront pas dans l'activité. Donc, dans le langage, on construit des objets, des mondes, des objets de discours, mais on construit aussi des formes de rationalité. Ça n'est pas la même façon d'argumenter en histoire, en littérature, et du coup, les manières de légitimer un propos ne fonctionnent pas de la même façon. Donc, langagièrement, on construit des formes de rationalité. Et du coup, en parlant, on construit l'image d'un sujet discursif. en fonction des positions énonciatives que nous adoptons. Donc, on le voit, le langage, à travers les reformulations, les reprises modifications, permet des négociations, des déplacements qui affectent tant la compréhension, la représentation conceptuelle, que les manières mêmes de verbaliser. Donc, le langage a un pouvoir créateur et c'est la même chose que l'on parle dans la société ou à l'école. Alors, un exemple pour vous montrer le travail créateur, nous continuons à filer l'exemple du CM2 et des échanges placentaires. Les élèves patinent, entre guillemets, vous l'avez vu, sur mais comment ça peut bien se passer avec cette contrainte des systèmes sanguins mère-fœtus qui sont indépendants et de cette nécessité que c'est quand même la mère qui apporte tout ce dont le fœtus a besoin. Donc, vous avez déjà vu un extrait d'échange tout à l'heure et on va assister là à un moment de prise de parole et de tentative de modélisation par un élève de ce que peut être de la manière dont peut se passer l'échange de nourriture, entre guillemets, entre la mère et le fœtus. Donc, on le voit, Thibaut qui, je le rappelle, a au départ une représentation en tuyauterie. Donc, il imagine des tuyaux comme nombre d'élèves. Il y a aussi les représentations en autarcie, le fœtus est dans une poche et il a tout ce qu'il lui faut pendant 9 mois pour vivre dans sa poche. Donc là, Thibaut, lui, a une représentation en tuyauterie et vous le voyez, il va commencer sa tentative de modélisation par le recours à une analogie très intéressante, parce que penser en termes de pompe, ça va d'abord lui permettre d'imaginer un fonctionnement, et ensuite ça le rend disponible un paradigme, ça lui ouvre un paradigme lexical, ça va rendre disponible des mots comme envoyer, donner, prendre, récupérer, aspirer, enfin, donc ça va le doter de moyens linguistiques pour pouvoir évoquer un problème. Donc, vous voyez le travail langagier de Thibault, j'espère que vous aurez eu le temps de lire le texte, qui cherche à limiter, à réduire l'aspect tuyauterie avec tout ce qui a été matérialisé en rouge dans le texte. C'est une pomme qui aspire juste ce qu'il n'a pas besoin. Il y a juste un petit trou. Il y a juste la nouvelle comparaison, une espèce de fuite. Un petit trou. Donc, on voit ces tentatives pour transformer sa vision en tuyauterie en autre chose qui laisserait juste un petit filet passer, vraiment quelque chose de tout petit. Et en même temps, vous voyez cette démarche d'essayer de s'approprier la contrainte scientifique, les faits, le réel, les systèmes sanguins sont indépendants. Et vous voyez en vert toutes les formulations dont il farcit son discours pour s'accrocher au savoir scientifique. Mais ça ne touche pas, c'est imperméable. La récurrence des « mais », ça ne peut pas se toucher, ça ne peut pas se mélanger, ça ne peut pas rentrer. Donc, vous voyez ce travail, cette création dans le discours d'une nouvelle conceptualisation, alors qu'il n'est pas encore abouti, mais d'une nouvelle conceptualisation qui se déconnecte de la tuyauterie pour aller vers quelque chose, un passage de quelque chose de petit, mais qui maintient l'indépendance des deux systèmes. Donc, vous voyez ce discours du mélange entre des représentations initiales et des verbalisations initiales qu'il essaye de travailler pour leur faire dire autre chose, et l'intégration du discours scientifique pour essayer d'aller vers une nouvelle représentation. Donc, dans ce passage, et on regarde la suite, l'enchaînement, un enfant Valentin qui va déplacer encore en proposant, il peut être filtré, c'est un genre de filtre, avec une reprise modification, c'est un tri, il trie, et qui va amener l'idée que le sang est fait de constituants, hein, ce qu'il a besoin, la comparaison du tamis, et enfin, un peu plus loin dans le discours, un élève Alexandre qui parlera des contenances du sang. Donc, vous voyez ce pouvoir créateur du langage entre les comparaisons, les néologismes, les reprises modifications qui apportent chaque fois des éléments d'information nouveaux pour penser un modèle pour penser ces échanges placentaires.
Alors, l'activité langagière est aussi une activité contextualisée, non ? inscrites en contexte et qui s'organisent dans des genres de discours spécifiques. Alors, nous nous appuyons aussi beaucoup sur Bakhtin. Et pour Bakhtin, Bakhtin dit que si les genres n'existaient pas, il nous faudrait les inventer. Pour lui, le genre, c'est une forme relativement stable donnée par la culture et qui permet de dire les choses sans qu'on ait besoin de réfléchir pas à pas sur le comment on va s'organiser pour dire les choses les unes après les autres. Il me semble qu'on peut comparer avec la marche. Si on n'avait pas un projet, si on n'avait pas des chemins, si on ne savait pas où aller, déjà, même quand on erre, on ne pourrait pas mettre un pas devant l'autre. En fait, les genres sont des formes stables, mais relativement transformables. Ce sont des principes, hein, on va dire. Ce sont des systèmes d'attente. C'est-à-dire, par exemple, quand on lit ou quand on regarde un policier, un film policier ou un livre policier, on s'attend à. Hein, on s'attend à avoir des informations sur le crime, si crime il y a eu, des informations sur le criminel, sur le policier, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a des attentes, on a des attentes préétablies, ce qui nous permet de lire. C'est ce qui permet d'ailleurs, nous permet de lire et de comprendre, ce qui permet aux élèves de lire, hein, d'aller plus avant dans un texte. Bon, ce sont des outils de sémiotisation parce qu'ils fabriquent de la signification. Et ils permettent de réguler notre propre activité. On ne s'en va pas tous azimuts. Hein, on sait à peu près vers où on va, ce que je disais tout à l'heure pour la marche. Et ils permettent donc de comprendre le monde. Ils nous donnent une interprétation du monde. Bah, on avait bien l'exemple avec Delphine, Thibault et Romain. On voit bien que les trois genres mis en œuvre donnent des interprétations du monde scientifique différentes. Les genres sont plus ou moins tributaire de l'action. Et c'est ainsi que Bakhtin différencie genre premier et genre second. Vous pourrez, dans votre tête ou en revenant en arrière, faire la comparaison que nous ne nous privons pas de faire avec Bakhtin lorsqu'il différencie les concepts spontanés et les... Vygotsky, qu'est-ce que j'ai dit ? Les concepts spontanés et les concepts scientifiques. Alors, pour Bakhtin, dans ces genres, dans ces formes que nous utilisons, certaines sont, comme il dit, premières, c'est-à-dire tributaires de l'action, alors que les formes plus élaborées, qu'il appelle genre second, reconfigurent l'action. Ces genres premiers sont dans la dynamique de l'échange, alors que les genres second permettent de mettre à distance. Les uns sont dans le monde plus quotidien, les autres dans un monde plus spécialisé. Les uns sont dans l'immédiateté, les autres supposent une mise à distance, comme on vient de le dire, et donc une médiation sémiotique, c'est-à-dire un outil producteur de sens, via un outil producteur de sens. Ils supposent un ancrage dans l'ici et maintenant, alors que les genres seconds supposent des données reconstruites linguistiquement. Et donc, on comprend bien que si l'apprentissage consiste à essayer de faire que les concepts spontanés deviennent plus savants, on peut penser que les gens, le rôle de l'apprentissage, c'est de faire que les genres premiers deviennent plus seconds, c'est-à-dire se secondarisent.
Effectivement, les savoirs ne sont pas dissibles dans les genres premiers, ils relèvent, le texte du savoir relève de genres seconds.
Alors, le langage est aussi, bien sûr, une activité dialogique, socialement poreuse. Bakhtin, comme vous pouvez le voir, nous nous référons beaucoup, parle du double dialogisme du langage. Alors, le dialogisme, c'est le fait de d'émailler son discours, on va dire, sa pensée et son discours, parce que pour nous, pensée et discours sont totalement intégrés, sa pensée et son discours, des discours et donc des pensées des autres, ou de ses propres discours, de ses propres discours antérieurs, etc. C'est-à-dire que lorsqu'on dit quelque chose, ce qu'on dit réfère toujours plus ou moins à quelque chose qu'on a déjà dit ou à quelque chose que d'autres ont déjà dit. On parle toujours en référence à d'autres discours. Ce qui permet à notre discours du moment de s'enrichir et de se déplacer. Mais ce qui lui permet aussi, bien sûr, d'être polyphonique, c'est-à-dire de présenter des voix qui ne sont pas toujours en cohérence, être ce qu'on appelle, nous, de l'hétéroglossie, ce qui pose le problème de la prise en charge énonciative par le locuteur des deux ou trois ou quatre voix. Et donc, il est quelquefois dans l'incohérence. Ce qui suppose donc pour nous, pour l'école, de mettre en travail les positions énonciatives émergentes dans le dialogisme. Le sujet parlant ou écrivant est un être social et il produit des discours panachés, on disait tout à l'heure, métissés, dialogisme polyphonique. Ou hétéroglossique, enfin, on va mettre tous ces mots à la suite. Dialogisme et conceptualisation, le rôle de l'oral est de permettre aux enfants de prendre en compte les discours d'autrui, la controverse, et de faire des parcours sur les points de vue. Tout ça, c'est le rôle de l'oral.
Voilà, alors après être revenu sur les savoirs, après avoir réinterrogé nos conceptions du langage, eh bien on va aller regarder de près dans des corpus le rôle du langage par rapport aux apprentissages visés par les enseignants. Alors on va commencer en petite… pardon. Alors, une récapitulation avant d'aller voir les exemples. Donc apprendre, hein, c'est, si on reprend ce que l'on a dit sur savoir et langage, c'est faire passer les élèves du monde quotidien au monde des savoirs disciplinaires ou des domaines d'activité, c'est bien transformer des concepts spontanés en concepts plus savants. Donc, il s'agit de permettre aux élèves de s'ancrer dans des communautés discursives scolaires disciplinaires, c'est-à-dire d'apprendre à agir, parler, penser dans des univers spécifiques, à s'approprier les outils culturels de ces communautés discursives, de ces univers spécifiques, et à s'inscrire dans de nouveaux contextes en réorganisant des modes de parler, penser, agir antérieurs pour s'approprier, se rapprocher des modes de parler, penser, agir de chacune des disciplines. Avec ce problème que chaque discipline a des pratiques, des outils culturels, des usages, des valeurs spécifiques. Donc, sur le plan langagier, ça suppose de permettre, de favoriser, de susciter la transformation des genres premiers avec lesquels les élèves s'expriment, essayent de dire les choses, pour aller vers la secondarisation des discours, vers des genres de type second. Et ceci suppose une médiation langagière importante de l'enseignant pour permettre aux élèves de s'approprier grâce aux interactions les outils en dépôt dans la culture, dans les disciplines, pour les intérioriser et en faire des outils personnels pour penser. Alors, comme je vous l'avais dit, on va commencer à observer la médiation langagière des maîtres en petites sections. Alors, nous, l'objectif est de faire travailler sur le concept de vivant, hein, qui apparaît dans les objectifs de la petite section. Et cela va être décliné à travers un élevage d'escargots et l'observation d'escargots. Donc, on est tout à fait au début quand les élèves observent les escargots et dont ils disent qu'ils ronflent, qu'ils ont des oreilles, des pieds. Et donc, l'enseignant va essayer de transformer la vision anthropomorphique qu'ont les enfants des escargots en une vision plus scientifique à la mesure d'élèves de petite section. Donc là, on voit un échange, hein, où elle essaye de focaliser l'attention des élèves sur un escargot ou des escargots particuliers avec ses injonctions récurrentes, hein, regardez celui-ci, celui-là. Donc, un travail de focalisation pour attraper l'attention des élèves qui regardent tout aussi bien les feuilles du terrarium que l'escargot. Et elle focalise sur une question. Comment il avance ? Derrière, nous savions qu'il y a la question de la locomotion et des différents modes de locomotion des animaux, mais surtout l'idée d'évacuer la représentation de la marche pédestre, hein, puisque pour les enfants, les escargots marchent, ils ont des pieds. Donc, on voit l'obstacle, hein, c'est des pieds, et la transformation que propose la maîtresse de l'énoncé de l'enfant. Face à l'assertion « c'est des pieds », la maîtresse transforme, modalise, introduit le doute. Elle croit que c'est des pieds. Et là, on a un geste professionnel très fort que l'on reverra tout à l'heure, puisque en science, tant qu'on n'a pas vérifié, on est dans la croyance, dans l'hypothèse. Et elle vise à mettre en tension, en utilisant une interrogative dont on sait bien à l'école que dite sur un certain ton, elle suppose qu'effectivement la réponse est négative. Hein, ça a des pieds, l'escargot ? On voit bien que ça marche, un des élèves dit non. Et à force d'observer de près, un élève dit « il se met sur le ventre », qui est tout de suite reformulé par la maîtresse. Ça n'est plus un escargot, celui qu'on regarde, mais « ils se mettent sur le ventre tous nos escargots », ce qui va amener, et il glisse, une nouvelle reformulation de « il se met sur le ventre » ou de « ils se mettent sur le ventre ». Et il glisse. Donc, on le voit, une imperceptible transformation de la représentation de l'escargot. On n'est plus sur la marche pédestre, on est sur ramper, glisser sur le ventre. Et des moyens de parler de l'escargot autres que ceux utilisés initialement. Alors, toujours dans, la même séquence, hein, plus loin, à un moment donné, la maîtresse va utiliser le recours à l'écrit et la dictée à l'adulte pour systématiser des usages langagiers et essayer de rendre plus conscient, en petite section, soyons clairs, on n'est encore pas quand même dans une activité consciente, les élèves de certains usages du langage. Ainsi, elle va essayer de lister des hypothèses et de faire transformer les assertions en questions et d'introduire des outils pour montrer le doute dans les assertions. Donc, comme vous le voyez, à partir d'assertions apportées par les enfants, elle va les faire transformer en questions pour pouvoir marquer, lister les questions qu'on se pose. Et quand les enfants affirment des choses, c'est un bébé, elle va le transformer en disant « Ah, tu vois un bébé ? Pourquoi tu dis, avec cette mise à distance, elle ne valide pas, tu dis que c'est un bébé ?» Et quand, avec cette reprise… Ah, s'il est tout petit, c'est peut-être, modélisation du doute, tu crois que c'est un bébé, avec cette nouvelle proposition langagière pour modéliser le doute, pour signifier le doute. Donc, on le voit à la fin du module autour des escargots et du vivant, l'objet de discours s'est légèrement modifié. Ce n'est plus un escargot qui ronfle, qui a des oreilles, qui a des pieds et qui marche. Ça va devenir un autre animal, un animal qui se rapproche de la représentation scientifique. Donc, on schématise, on réalise sur un plan scientifique l'escargot. On observe des déplacements énonciatifs que cherche à susciter l'enseignante, qu'on continuera à susciter à l'école élémentaire, en cours élémentaire 2, en cours moyen, parce que les enfants sont beaucoup dans l'assertion et très peu dans l'hypothèse. Mais on le voit, ce travail de longue haleine d'apprendre aux enfants à distinguer ce qui est de l'ordre du savoir, ce qu'on sait, ce qui est de l'ordre de l'hypothèse, du questionnement, à vérifier. Hein ?
Ce qui nous fait dire qu'on fait des sciences en petite section de maternelle.
Ça participe
à partir de la petite section de maternelle.
On voit aussi l'utilisation de la reformulation, des reprises modifications qui transforment progressivement les représentations. Et puis, un autre travail aussi que je vous ai pointé à un moment donné, ce travail de passer d'un exemplaire, deux, trois exemplaires à la généralisation, non plus l'escargot, cet escargot, mais l'escargot en général, les escargots en général. Et on l'a vu, il faut des gestes professionnels très forts qui focalisent, qui permettent des changements de contexte, qui proposent des pratiques nouvelles, qui suscitent les mises en tension qui sont liées à l'activité scientifique. Donc, progressivement, par ces gestes professionnels, l'enseignant modifie le rapport au langage des élèves, introduit de nouvelles conduites langagières et modifie leur rapport au monde. On essaye de regarder le réel et de ne pas anthropomorphiser le réel.
En contrepoint, nous allons vous présenter un exemple de construction de savoir via le langage, évidemment. Alors, cette fois-ci, dans une autre discipline, en français et plus particulièrement en littérature, et sur un point spécifique de la, de la littérature, qui est la construction du point de vue. Alors, pour aller très vite, le contexte, il s'agit d'un CE2. Dans ce CE2, la maîtresse a fait beaucoup, beaucoup lire. Elle fait beaucoup lire déjà de toute façon, mais là, elle a fait beaucoup lire de textes fantastiques. Donc, il s'agit d'écrire. La commande faite aux élèves, c'est d'écrire un récit fantastique, première commande. Deuxième commande, donc, suppose de mettre en place un récit, d'autre part, son aspect fantastique. Et deuxième commande, du point de vue du narrateur. Une focalisation interne, position énonciative du narrateur, focalisation interne, enjeu. Alors, la stratégie mise en place, en dehors des lectures, etc., c'est une fois le premier jet, si on peut dire comme ça, le premier écrit produit, les élèves sont conviés à ce qu'on appelle des cercles de lecture. Ils sont 5, 6, 7, ça dépend des groupes, avec l'enseignante, et ils débattent des premiers textes de chacun. Et en particulier, l'enseignante s'attribue un rôle spécifique, puisque c'est elle qui le mène, et puis c'est elle qui sait. C'est elle qui a le savoir ad hoc, on va dire. C'est elle qui va, elle va interviewer le narrateur. Alors, quelquefois, c'est aussi l'écrivain, l'auteur. Hein. Mais l'idée, c'est quand même d'interviewer le narrateur de façon à pousser l'élève à faire fonctionner la focalisation interne. Alors, le corpus sont des écrivains, version 1, version 2, d'un auteur, qui est Mathieu, mais on aurait pu vous en donner des quantités d'autres. Mais c'est celui qui est peut-être le plus facile à analyser
rapidement.
Et nous avons l'interview du narrateur. Alors, le premier texte, je vais aller très vite sur le premier texte. On s'aperçoit sur ce premier texte que le récit et le fantastique, comme dans tous les autres d'ailleurs, sont peu développés. Les personnages sont pas. Il n'y a pas d'épaisseur des personnages, en particulier du narrateur. L'intrigue est une intrigue à trous. Les dialogues, c'est classique aussi, en tout cas dans le premier degré, sont classiques. Les dialogues sont copiés du quotidien. J'arrive, oui, tu arrives, oui, j'arrive, et j'arrive. Enfin, on répète trois fois une information inutile. Dans d'autres textes, les éléments du fantastique sont accumulés, pas dans celui-là, hein. Sorte de bric-à-brac du fantastique. Et quant au point de vue du narrateur en jeu, on pourrait dire que c'est le degré zéro du point de vue. Les élèves éprouvent une grande difficulté à imaginer ce que voit, pense, ressent, peut dire le personnage. Et le point de vue est réduit à l'utilisation du pronom « je ». Dans d'autres textes, on peut effectivement observer des glissements, ce qu'on ne voit pas dans celui-là, hein, des glissements de focalisation interne à narrateur omniscient, c'est-à-dire au lieu de voir de l'intérieur, le narrateur voit tout, et c'est tout. Et on peut constater aussi, dans ce cas-là, des ruptures d'énonciation du « je » au « il ». Le texte est ancré dans un monde narratif quotidien qui n'assume pas réellement le point de vue du narrateur. Donc, la question qu'on se pose quand on est enseignant, et que vous vous posez certainement, c'est qu'est-ce qui peut permettre l'enrichissement du texte, l'évolution du texte, tant dans sa longueur que dans la gestion du point de vue et son ancrage dans le fantastique. Donc, stratégie impulsée par l'enseignante, c'est l'interview. Alors, là, c'est pareil, on ne va pas détailler toute l'interview qui est quand même assez complexe. Pour vous aider dans votre compréhension de l'interview, nous avons mis en bleu les interventions de l'enseignante qui visent la construction du point de vue. Vous voyez, tu vois, dans ta tête, tu te dis ta réaction, comment tu le sais, vous voyez comment elle s'adresse au narrateur, c'est-à-dire au personnage de l'histoire racontée, et elle le pousse à s'approprier son point de vue. D'autre part, nous avons donc souligné en vert ce qui relève du narrateur. Alors, imaginons, qu'est-ce que je peux faire? Et pourquoi pas la mienne? Oh là là, elle a rejoint les autres ombres pour les aider. J'arrive, oh, je vois trois ombres et trois danseurs. Je vois quatre ombres, enfin, etc. Bon, ça y est, il est dans la peau du personnage, on va dire. Hein. Avec, de temps en temps, des incursions dans le problème qui se pose du coup à l'écrivain qui doit se dissocier du narrateur. Quand il dit « Ah, mais il y a un problème. » C'est leur problème qui a disparu. C'est leur ombre qui a disparu. Au moment d'écrire, zut, là, je vais avoir un problème. Et comme elle dit, et comme tu viens de parler de ton ombre, là, elle s'adresse à l'écrivain, qu'est-ce que tu fais? Alors, ah, je peux. Et chaque fois qu'il va dire « je peux », il envisage un possible narratif, bon, etc. Vous regarderez. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que l'enseignante joue un rôle vraiment clé dans la mesure où, certes, elle pousse l'élève à se mettre dans la position du narrateur, mais en même temps, elle joue le rôle du lecteur intéressé par l'histoire. C'est comme ça qu'elle dit « Ah, tu ne l'as pas non plus !» Et après, elle dit « Ah, mais ça commence à devenir rigolo !» C'est-à-dire qu'elle participe là au plaisir de la lecture. Donc, elle joue tout à fait ce rôle de lecteur et d'initiateur du texte.
Oui, elle met à distance les effets possibles du discours de l'enfant.
Et donc, on regarde maintenant le texte, le deuxième texte, écrit après l'interview, et on s'aperçoit que, on s'aperçoit que, on a mis en rouge toutes les modifications, que non seulement l'élève a allongé son texte, mais qu'en même temps, il a intégré, d'une part, les idées qu'il a construites avec l'enseignante, hein, le fait de la disparition des ombres, trois ombres, Jean, quatre, etc. Mais aussi le dialogue interne, c'est-à-dire trois ombres, trois danseurs, non, quatre ombres. Ah, c'est-à-dire qu'il se parle à lui-même, on voit bien qu'il se parle à lui-même, et que du coup il se pose des questions, d'où, et après il reprend la distance, et il commente « j'étais affolée », et il reprend le dialogue interne « et si c'était la mienne ?» Alors, du coup, je regarde derrière moi, etc. J'avais perdu mon nom. Donc, on voit bien comment il a totalement intégré, totalement c'est beaucoup dire, mais qu'il a bien intériorisé et intégré dans son texte le positionnement énonciatif, là, sur ces quelques lignes. Mais on voit bien que la question du point de vue est traitée par Mathieu et que, du coup, il a trouvé les moyens langagiers et linguistiques de l'écrire.
Tout en intégrant du fantastique.
Tout en restant dans le fantastique. Oui, c'est-à-dire que la question du point de vue était propre au fantastique, oui. Évidemment.
Voilà.
Ce qui fait que nous parlons de secondarisation, parce qu'entre la version 1 et la version 2, on voit bien qu'il y a une transformation du texte, c'est-à-dire qu'il y a d'une part modification de l'objet de discours, création d'un monde narratif et fantastique, un peu plus, le monde narratif, il fonctionnait à peu près un peu plus fantastique, mais surtout qui a intégré le point de vue du personnage avec une schématisation intégrée du fantastique. On constate un déplacement énonciatif avec stabilisation de la focalisation interne, c'est-à-dire du dialogue intérieur, stabilisation du positionnement énonciatif et du coup gestion de l'hétéroglossie. Il intègre assez bien les discours de l'enseignante. Si on regarde les gestes professionnels langagiers, on s'aperçoit qu'il y a complexification du genre, c'est-à-dire déploiement du récit en jeu, reconfiguration des dialogues, on n'a plus des « oui, j'arrive », etc. Et spécialisation du fantastique, grâce au point de vue d'ailleurs, création de la peur, du doute et le jeu sur la polysémie. D'où un texte, une V2, une version 2, plus seconde que la V1, ce qui nous permet de parler de secondarisation et donc d'ancrage dans la communauté discursive scolaire littéraire.
Alors, pour conclure, on le voit, l'oral est une activité, on l'a vu, l'oral est une activité sémiotique hein, qui permet donc de construire, de négocier des significations. Et on l'a vu aussi que tout discours signale le contexte dans lequel le sujet organise son activité. Hein, le discours signale des ancrages en fonction des objets construits, des mondes convoqués. Donc, l'oral apparaît comme un outil de construction, de négociation, de transformation des significations avec les reprises, reformulations, négociations, et en même temps un outil d'ancrage dans les disciplines, puisque ces reprises, modifications permettent des transformations qui se rapprochent des attendus des disciplines. On a vu aussi le rôle important du dialogisme, alors qui à l'école est plutôt de l'hétéroglossie, puisqu'on a le monde du quotidien et le monde des savoirs qui se confrontent et des discours qui se métissent, et avant que les enfants puissent organiser, hiérarchiser les différentes voies, les tenir à distance, les avoir dans le discours en les tenant à distance ou en validant, en montrant qu'on adhère plutôt à une autre voie, c'est quelque chose de difficile à construire, hein. Donc l'orchestration des différentes voies est à travailler à l'école et dans le cadre du langage, en aidant les élèves à se positionner sur le plan énonciatif dans les disciplines. Alors, en termes de formation, maintenant, il nous semble qu'il est important de repenser les disciplines, les savoirs, comme des constructions historiques et sociales. Il est important que les enseignants aient conscience de la spécificité des pratiques langagières et qu'on ne confonde pas langage et langue, et conscience que chaque discipline produit des usages langagiers qui lui sont propres et qui supposent une acculturation. C'est pour ça que nous avons parlé de communauté discursive disciplinaire. Pensez que chaque fois que les élèves changent de discipline, il faut leur permettre de se réinscrire dans une communauté discursive disciplinaire qui est différente de celle dans laquelle ils étaient leur précédente. Et ça suppose aussi de permettre aux enseignants d'identifier des spécificités, des usages disciplinaires, les enjeux, les valeurs, les modes de légitimation des discours, les genres de discours propres aux disciplines, le lexique bien sûr, et le type de positionnement énonciatif, quel rapport au réel, quel rapport au pittoresque, à l'imaginaire, à la généralisation, enfin, nombre d'éléments qui caractérisent les disciplines. Alors comment ? Comment favoriser cela ? Quel geste professionnel ? Il nous semble très important qu'en chaque début de séance, on aide les enfants à se réancrer dans le contexte de la discipline, à recontextualiser. Alors, les rappels de récits, les rappels de début de cours, que ce soit le récit ou en année en histoire, en sciences, quels problèmes on se posait, les bilans provisoires, les moments de mise à distance où on compare les points de vue des uns ou des autres, où on les rend publics à partir d'affiches, mais où c'est verbalisé, communiqué, élaborer des listes de mots avant de construire un discours, qu'il soit oral ou écrit, élaborer avec les élèves la liste de mots dont on va avoir besoin, dont on risque d'avoir besoin pour pouvoir parler, écrire sur tel sujet. Aider les enfants à verbaliser à partir d'écrits, que ce soit des notes, que ce soit des commentaires de schémas, etc., en utilisant aussi un dispositif rarement utilisé au-delà du cours préparatoire, la dictée à l'adulte ou la dictée à un pair, qui permet aux élèves de se focaliser sur le contenu et le dit, comment le dire. Et puis, avoir des temps où on stabilise les valeurs, les savoirs, les moyens de légitimer les pratiques langagières des disciplines. Avoir en tête que sur le plan langagier, on cherche à secondariser le discours des élèves à travers les reformulations, les reprises, ainsi de suite. Réussir à s'ancrer dans des genres seconds suppose la mise à distance. Ça, c'est l'essentiel. On l'a dit, il ne s'agit pas de converser à l'école, mais bien de dire ce qu'on pense, de dire ce que l'on sait sur un objet, ce qui suppose une mise à distance et un projet d'ancrage dans une discipline. Prendre conscience que ce qui est important, c'est le processus de construction. Donc, favoriser la critique, favoriser les reformulations. Et à un moment donné, permettre la comparaison entre disciplines pour voir les variations, les spécificités. Et enfin, comme on l'a déjà dit, Laisser des espaces où les enfants peuvent s'essayer à construire des discours à l'oral, s'essayer à construire des discours à l'écrit. On rejoint en cela l'importance que nous qu'accordent Jean-Charles Chaban et Dominique Bucheton et nombre de chercheurs en didactique au discours de travail, au discours intermédiaire, aux discours oraux et écrits. Hein. Mais là, on est sur le langage oral, mais parler, ça prend du temps. Et donc, arriver à trouver dans nos emplois du temps des espaces pour que les élèves puissent s'essayer à construire des discours, c'est là que vous les aidez à reformuler, à déplacer, à reprendre et modifier. Et il s'agit bien de construire des élèves qui savent, mais surtout qui savent aussi dire qu'ils savent. Donc, qui ont construit les usages langagiers pour dire le savoir. D'où la nécessité d'un étayage fort du maître et du collectif classe. Il ne suffit pas de mettre les enfants à parler entre eux. Il faut vraiment cadrer par rapport aux spécificités disciplinaires. Voilà une bibliographie succincte parce que le sujet est très vaste, mais on reste disponible pour aussi envoyer des bibliographies dans des disciplines différentes. Et nous vous remercions pour votre attention.